Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Notre thème de ce matin, c'est l'humilité précède la gloire. À chaque fois, le Seigneur, lorsqu'il a agi dans la vie de beaucoup de personnes, ne serait-ce que dans l'humanité, nous constatons que les gens, en général, deviennent des traîtres. Les gens prennent la puissance de Dieu, prennent les grâces de Dieu pour en faire leur propre sujet de gloire. Et c'est tellement lié à l'homme, cette envie de prendre la gloire de Dieu. C'est très très lié à l'homme et nous voyons ça dès le départ. Adam a voulu être comme Dieu. Et Dieu, qui est un Dieu de gloire tout puissant, et qui en plus a choisi de travailler avec les humains, ne veut pas que sa gloire, qui est une bénédiction, se transforme en piège pour l'homme. La gloire de Dieu, après tout, c'est quelque chose de beau, de bien. Lorsque quelqu'un est intelligent, lorsque quelqu'un arrive à inventer des appareils, c'est la gloire de Dieu, c'est l'intelligence que Dieu donne. C'est quelque chose de beau, d'excellent. La beauté d'un humain, d'un paysage, c'est quelque chose de beau, d'excellent. Mais ce qu'on réalise, c'est que ça se transforme en un piège pour l'homme, puisque l'homme tire gloire de ce que Dieu a fait. Et ce qui est beau, excellent, puissant, glorieux, apporte maintenant la mort, parce que l'homme ne veut pas reconnaître que c'est de Dieu, et que Dieu seul doit recevoir la gloire. C'est pourquoi souvent Dieu, lorsqu'il veut manifester sa gloire à travers une personne, lorsqu'il veut bénir, il veut faire de grandes choses avec quelqu'un, il commence par le purifier, par l'humilité. Et sans cesse, notre vie sera remplie de moments, des passages à l'humilité et à la gloire, à l'humiliation et à la gloire, parce que l'homme ayant conservé sa liberté, même si on est devenu chrétien, on n'a pas perdu notre liberté. Notre liberté nous pousse toujours à reprendre nos galons et à décider et à gérer notre vie par nous-mêmes, et cela nous conduit à notre perte. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Lorsque Dieu répand sa gloire, il ne veut pas notre perte, il veut notre salut. Mais malheureusement, c'est nous qui comprenons mal les choses. Nous prenons la gloire de Dieu, nous en faisons notre possession, et c'est la cause de notre perte. Alors Dieu qui est bon nous prépare d'abord dans l'humiliation avant de nous présenter, avant de nous amener à la gloire. Et il sait qu'on pourra gérer l'affaire parce qu'il nous a déjà travaillé dans l'humiliation. Et j'ai l'habitude de dire, l'humilité, c'est le réservoir qui doit contenir la gloire. Plus le réservoir est grand, plus il peut contenir beaucoup de gloire. Mais si le réservoir est petit, alors quand la gloire est supérieure, elle déborde et elle submerge la personne qui est là, le réservoir, et c'est dangereux, ça crée des explosions. Or, il faut que toute la gloire qui est... La gloire est explosive, hein? La gloire est explosive. Alors il faut bien qu'elle soit renfermée dans un bon réservoir. Parce que sinon, lorsque ça déborde, moindre étincelle, c'est l'explosion. Et la personne sur qui était cette gloire devient folle, s'éloigne de Dieu et perdue. C'est quelque chose qu'on doit réaliser. Et c'est vraiment dans l'homme, c'est cette soif-là de vouloir égaler Dieu, de rivaliser avec Dieu, d'être comme Dieu, c'est dans l'homme, c'est le péché d'Adam. Et ça nous suit jusqu'à la mort, à tel point que Paul, l'apôtre de Jésus, qui était si humble d'apparence, Dieu savait que sans les chardes, c'est-à-dire Dieu lui avait mis une difficulté dans sa chair, sans ce défaut-là dans sa chair, Même Paul, qui paraissait si humble, allait se détourner de Dieu. Et Paul lui-même reconnaît, afin de ne pas tomber dans l'orgueil à cause de tout ce que Dieu m'a donné comme don, comme puissance, Dieu m'a mis quelque chose, un défaut dans ma chair, pour m'empêcher de tomber dans l'orgueil. Paul était conscient et il en remerciait Dieu. Il disait, heureusement, bien-aimé, heureusement, il y a des moments où tu vas remercier Dieu de tes faiblesses, comme si on venait te donner une grande récompense, tellement l'odeur de la gloire est dangereuse. Lorsqu'on est vraiment quelqu'un qui aime Dieu, qui est dans la vérité, on a peur de la gloire de Dieu. Ça fait peur. Parce qu'elle nous impressionne. On se sent comme emporté par des vagues. Et on crie, Seigneur, s'il te plaît, humilie-moi. On crie à l'humiliation. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces choses, l'humiliation passe pour nous, pour quelque chose de négatif, de méchant parfois de la part de Dieu. Ça passe pour nous comme un retard. Ce n'est pas un retard. Dieu sait ce qu'il fait. Il veut notre salut total. C'est pourquoi il permet d'abord que nous traversions l'humiliation, nous traversions le désert. Et aujourd'hui, je veux parler de la profonde humiliation, parce qu'il y a humiliation et humiliation. Et souvent, on a calculé nos humiliations. On s'est dit, bon tiens, il m'a suffisamment humilié. Pourquoi continue-t-il? Et c'est souvent ça qu'on se dit, mais oui, mais j'en ai subi déjà des épreuves. Pourquoi continue-t-il? Donc, ma prédication, c'est que Dieu nous amènera jusqu'au fond. Au fond, il faut en arriver au fond. Il faut qu'il n'y ait plus de nous-mêmes dans l'affaire. Il faut qu'il n'y ait que de Dieu. Parce que la gloire qui vient après l'humiliation est trop dangereuse et il ne faut même pas qu'il y ait une part de nous-mêmes qui puisse revendiquer cette gloire-là. Et c'est pourquoi, si nous calculons notre humiliation, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore connue. Notre humiliation nous dépassera toujours. C'est pourquoi nous allons lire le texte sur Jésus et Pierre. On va voir comment Dieu les a humiliés les deux, à tel point que Jésus a crié, « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Donc on a vidé Jésus de tout ce qui était charnel. Vidé complètement. Et Dieu va chercher à nous vider. Il a réussi totalement avec son Fils. Nous, ça sera la résurrection qui nous sauvera. Donc, ce qui fait que Dieu fera cette œuvre indéfiniment pendant que nous sommes vivants, parce que on n'arrive pas à lui laisser cette liberté totalement. C'est pourquoi il est obligé de faire cette œuvre jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. Mais alors qu'avec son Fils, il l'a réussi, à tel point que son Fils était complètement vidé. Lui qui était le Créateur, il a dû accepter qu'un ange lui vienne en aide. Donc nous allons lire le texte d'humiliation de Paul et de Jésus et de Pierre, et le Seigneur nous parlera comme il le voudra. La fête des pains sans levain, donc on est au chapitre 22, appelée la Pâque approchée. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Alors Jésus prend le pain et dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Bien sûr, il était rempli de tristesse. Il dit, « Mais c'est la dernière Pâque que je vais manger avec vous. Mais un jour, nous la mangerons dans le royaume des cieux. Ça sera la grande fête. Et là, je donne mon corps. » Bien-aimé, quelle difficulté, quelle souffrance. Il allait donner sa propre vie. Et ça, c'est un langage que nous, les chrétiens, nous avons oublié. Dieu va nous amener à nous donner. Nous, nous voulons donner des choses. Dieu va nous amener à nous donner. Nous voulons prêcher. Prêcher, c'est donner quelque chose. Nous voulons chanter, c'est donner quelque chose. Nous voulons prier pour les malades, c'est donner quelque chose. Mais lui, Dieu, va nous amener à nous donner comme Christ s'est donné. C'est-à-dire, tu vas en arriver à réaliser que tu es inutile. Et c'est quand tu es inutile que tu te donnes. Parce que quand tu es utile, tu ne te donnes pas, tu donnes ce que tu as dans tes poches. Là, tu es utile. Tu donnes ce qu'il y a dans tes bras, dans ta tête. Tu donnes ton onction. Tu es utile. Mais quand est-ce qu'on se donne? Parce que lorsqu'on n'a rien à donner. Lorsqu'on n'a rien à donner, ben c'est là qu'on se donne. Lorsqu'une mère se demande, une mère chrétienne se demande, mais qu'est-ce que je fais à garder les enfants à la maison alors que j'ai le don de prédication, je ne prêche pas, j'ai le don de chanter, je ne chante pas, je suis recluse à garder les enfants à la maison. Ben c'est là qu'elle se donne. Quand on se donne, c'est là qu'on commence à se rapprocher de Jésus. On commence à se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas en faisant des miracles ou en prêchant d'une manière extraordinaire qu'on se rapproche de Dieu. On se rapproche de Jésus lorsqu'on commence à se donner soi-même. Il a dit, voilà le moment final, le moment tant attendu, le moment où je vais me donner. Pendant tout mon séjour sur terre, j'ai donné. J'ai fait des miracles. J'ai prêché. Là, le moment est arrivé où je vais me donner. Et on commence par se donner à Dieu et Dieu nous donnera maintenant aux autres. Et c'est ce que le Seigneur fait. Voilà, je me livre, je me donne à vous. Vous savez, Marie s'était donnée parce que être enceinte sans qu'on sache qui est le père, c'était quelque chose de hyper humiliant à l'époque, surtout que son propre fiancé donc savait bien qu'il n'y a jamais eu rien entre eux. Comment se fait-il qu'elle pouvait se retrouver enceinte? Marie, elle a accepté ça parce qu'elle portait le sauveur de son peuple. Elle s'est livrée pour que le sauveur vienne. Elle n'a plus regardé à elle. C'est que si elle devait regarder à elle, son avantage n'était pas de porter Jésus. Parce qu'elle serait humiliée, pas peut-être répudiée. Mais quand l'ange lui a parlé, Marie n'a pas dit, il faut d'abord arranger avec Joseph, ensuite je porterai. Il a dit, puisque Dieu le veut ainsi, je me donne. S'il faut, je sais prier, je sais chanter pour Dieu. Maintenant, Dieu me demande le sommet. C'est que moi-même je me donne, ben je vais le faire. C'est ça la véritable adoration. Offrez-vous comme sacrifice vivant, saint et agréable. Romains 12, et nous devons revenir à cela. C'est anachronique, c'est ce que je prêche. C'est hors du temps, mais c'est dans la Bible. Et c'est ça la vraie image de Jésus, la vraie La vraie volonté de Dieu, c'est qu'on se donne. Tout le reste n'est qu'accessoire. La réalité, c'est qui va nous amener à travers l'humiliation, la purification, à réaliser que ce dont il a besoin, c'est pas notre éloquence. Ce dont il a besoin, ce n'est pas le don qu'il a mis en nous, puisque c'est lui qui a mis. Ce dont il a besoin, c'est de nous. Il va nous amener à cela, de sorte qu'on puisse dire, d'accord Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Tant qu'on résiste, on n'a pas encore lâché. Et Dieu va nous travailler à travers l'humiliation pour nous amener à cela. Mais Jésus l'avait compris. Il était venu pour se donner afin que l'humanité soit sauvée. Il fallait que son corps soit livré. Il fallait qu'il soit injurié. Il fallait qu'il soit maltraité à la place des pécheurs. Et il a accepté ce rôle-là. Mais le moment était arrivé. C'est une chose d'accepter le rôle et de le pratiquer. Et le moment était arrivé de le pratiquer. Et Jésus a commencé sa pratique. Et la Bible dit, au verset 24, voilà un peu ce qui nous caractérise. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Après avoir fait sentir à ses apôtres qui s'en allaient, les apôtres, première réaction, ils cherchent qui va remplacer. Qui va remplacer le chef dans la bande, dans le groupe? Qui est le plus grand? Donc, première réaction. Et l'un de nos problèmes, c'est ça. Suis-je le plus grand? Notre problème, c'est nous affirmer. Mais Dieu veut qu'il nous porte, Dieu veut nous porter. Et donc, c'est contraire au fait qu'on s'affirme. Notre problème, on veut s'affirmer. Qui suis-je? Suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, ou suis-je le quatrième, le troisième, le plus éloquent? On veut s'affirmer, on veut dire moi, et Dieu veut qu'on dise Jésus. À tel point que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Et nous, on veut s'affirmer. On veut aller quelque part, et en fonction de la place qu'on nous donne, nous donner une sorte d'évaluation, une sorte de note. Ah, je suis le troisième, je suis le quatrième. Voilà telle considération. On m'a donné, on veut dire moi. Dieu veut qu'on dise plus moi, mais qu'on dise Dieu, qu'on dise Jésus. Et c'est ça qui nous gêne. Et l'humiliation sert à cela. L'humiliation sert à nous amener à dire maintenant, ma vie ne compte plus, mais c'est la vie de Dieu en moi qui compte. L'humiliation. Et si on est de Dieu, Dieu ne s'arrêtera pas. Il ne faut pas rêver, bien-aimé. Si tu n'es pas de Dieu, Dieu peut s'arrêter. Il te dit, tu es déjà perdu, tu ne veux plus que je travaille en toi, je m'arrête là, fais ce que tu veux. Mais si tu es de Dieu, ne te fais pas de film, Dieu ne s'arrêtera pas. Parce que s'il t'aime, il veut le meilleur pour toi. Et il sait que le meilleur pour toi, c'est que tu ne t'affirmes plus, mais que tu l'affirmes lui en toi. Il le sait. Donc il ne peut pas, s'il vraiment il t'aime réellement, te laisser dans l'erreur de croire que tu dois t'affirmer. Tu dois être quelqu'un. Il ne veut pas. Il t'amènera toujours à réaliser que c'est lui qui doit être en toi. Et toi, tu dois être effacé. Et le meilleur moyen d'être effacé, c'est lorsque tu te sens perdu. C'est là que tu es effacé. C'est lorsque tu te sens limité et lorsque tu ne comprends pas. Beaucoup de chrétiens disent, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne comprends pas. C'est en ce moment-là que Dieu devient quelque chose en toi. Lorsque tu ne comprends pas. Moi, aujourd'hui, je vais parler de l'humilité la plus extrême. sans qu'on atteigne la totale, mais on va enfoncer vraiment le clou. Parce que notre idée, c'est que Dieu va s'arrêter à un moment. Et souvent on dit, mais ça s'arrête quand? Et pendant que toi tu dis, ça s'arrêtera quand? Dieu te dit, tu comprendras quand? Et donc un conflit de paroles. Tu comprendras quand? Toi tu dis, mais ça s'arrêtera quand? Et vous êtes là, dialogue. Je ne peux pas dire de sourd parce que Dieu lui t'entend bien, c'est toi qui l'entends bien, qui n'entends pas. Lui il entend bien. Dialogue d'un sourd et avec un autre qui est en bonne santé. Voilà. Bien-aimés, acceptons que ça aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et verset 28, Jésus dit une parole vraiment intéressante. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus leur dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Aujourd'hui, la parole est valable pour nous, parce que la parole n'a pas été écrite pour les gens du passé. Sachez-le, cette parole que nous venons de lire n'a pas été écrite pour Pierre, puisque Pierre l'a vécu. Ça n'a pas été écrit pour Jean, puisqu'ils l'ont vécu. Ça a été écrit pour nous. Donc quand Jésus a dit, vous êtes ceux qui avez persévéré dans mes épreuves, au moment où il parlait à Jean, Pierre et aux autres. Mais au moment où il nous parle aujourd'hui, il ne parle pas à Jean, Pierre et aux autres. Il parle à ceux qui lisent, toi et moi. Vous êtes de ceux qui avez persévéré dans mes épreuves. Quelles sont les épreuves du Seigneur? C'est à chaque fois qu'on t'a dit, mais voilà, tu es chrétien, tu manques d'argent. Et que tu n'as pas nié que tu étais chrétien. Tu as affirmé, oui, je continuerai avec Jésus. C'est-à-dire, les épreuves de Jésus, tu les as acceptées. À chaque fois que Satan t'a soufflé dans ton oreille, mais qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Et que toi, tu as dit qu'il fasse ou pas, moi je suis avec lui. Tu es en train de persévérer parce que dans les épreuves du Seigneur. Parce que le Seigneur a ses épreuves. Ses épreuves, c'est tout ce temps-là où il semble absent. Il laisse le mal faire ce qu'il veut. Le mal pense être fort, alors que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Tout ce temps-là, c'est l'épreuve de Dieu où il est obligé d'être là, d'attendre le temps qu'il faudra pour juger une fois pour toutes le mal. C'est une épreuve pour Dieu. De laisser quelqu'un se réjouir, de croire qu'il est le plus fort alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il n'est rien du tout, c'est une grande épreuve. Aller dans un endroit où il y a quelqu'un qui se prend pour intelligent ou fort, et que vous êtes 5 fois plus fort que lui. Maintenant, il est en train de dire des discours, et vous recevez dans votre cœur qu'il faut que vous ne dites rien. Alors, comment ça bouillonne, hein? C'est dur, vous laissez la personne raconter n'importe quoi, mais vous ne pouvez pas dire. Vous avez qu'à dire 5 phrases, vous le corrigez et il n'est plus rien quoi dans l'endroit. Mais vous êtes obligé de vous taire. C'est l'épreuve de Dieu. Il est là, obligé de faire les choses au temps convenu. Et pendant ce temps-là, il supporte. Et c'est ce qui nous arrive à nous les chrétiens. Il y a des temps, on vit des choses. On n'aimerait pas que ça soit ainsi. Mais on supporte. Entre-temps, nous sommes critiqués, nous sommes humiliés. Le nom du Seigneur est humilié. Parce que chrétien, ça veut dire qu'il y a Christ. Ben, le nom de Christ est humilié à travers nous. Ben, nous persévérons dans ces épreuves. Mais tous ceux qui se cachent d'être chrétiens à cause de leurs souffrances, ils veulent pas. Ils se disent, oui, mais si les gens savent qui je suis, ils vont se moquer de Dieu. Mais non, bien-aimé, Dieu accepte de souffrir de la moquerie pendant un temps. Ce sont ses épreuves. Acceptons ces épreuves sans nier qui nous sommes. Affirmons ce que nous sommes, peu importe ce qui nous arrive. Ce sont les épreuves du Seigneur et nous y participons. Et si on fuit... Hein? On cache notre côté chrétien à cause des épreuves, eh bien, on ne veut pas participer aux épreuves du Seigneur. Et Jésus dit, vous qui avez participé à mes épreuves, je vous donnerai le royaume, vous serez assis sur des trônes, vous siégerez, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Alors, premier point, on va parler de deux points. Globalement, le premier point, c'est que Dieu va nous vider de toutes nos forces à nous. Il va nous vider. Tout ce qui fait que tu sois fort, il va te vider de ça. Il y a certaines personnes, vous savez, même étant païens, ils maîtrisaient certains domaines de la pureté. Et quand ils deviennent chrétiens, ils se disent, mais je vais continuer comme avant. Non, Dieu te prouvera que tu ne peux pas continuer comme avant. Ce comme avant-là va échouer devant les tentations du diable. Et tu finiras par avoir recours toujours à Dieu. Il va te vider de ce que toi tu crois être ta force sans Dieu. Il va te vider de ça, afin que tu n'aies de force qu'en Dieu lui-même. Il va te vider. C'est ce que Dieu fait. Et nous continuons, nous allons avoir le temps largement de commenter là-dessus. Et Pierre affirme sa force. Il dit, Seigneur, même la prison, même la souffrance, même la torture ne m'éloignera pas de toi. Jésus lui dit, oh Pierre, aucun homme ne peut faire la volonté de Dieu par sa propre force. Aucun. Tu vas voir que les épreuves, la difficulté, ma mission, la mission que je vous donne, mais tu ne vas pas y arriver. Tu vas me renier trois fois, avant même que le conque ne chante. Et au verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Amen. Nous voyons la différence entre Jésus et nos organisations aujourd'hui. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a demandé de ne pas prendre d'argent. Donc, il voulait qu'ils comptent que sur Dieu. Aujourd'hui, beaucoup pour servir le Seigneur, ils veulent à tout prix des garanties financières. Ils veulent savoir d'où viendra leur subsistance. Ils veulent savoir comment l'organisation qui les envoie va les rémunérer. Bien-aimé, un vrai serviteur de Dieu n'a comme banquier que Dieu seul. Maintenant, si Dieu utilise une organisation humaine, il va l'utiliser. On accepte. S'il n'utilise pas, on attendra de manger comme des oiseaux. C'est écrit dans la parole. Je vous ai envoyé sans bourse ni sac. Comptez que sur moi. Moi, je vois beaucoup de gens va d'aller en mission aujourd'hui en Afrique ou dans certains pays. Ils font tout pour d'abord collecter ce qu'il faut, chercher des soutiens financiers avant d'y aller. Or, Dieu, quand il envoie quelqu'un, on obéit à son ordre, le reste vient après. Mais aujourd'hui, les gens font l'inverse. D'abord, trouver les ressources financières, et puis je m'en vais. Je ne dis pas que ça peut se faire en même temps. Ça peut se faire en même temps, mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que nous devons obéir à l'ordre de Dieu et non à une stratégie financière avant de faire quelque chose pour Dieu. Nous obéissons et le reste vient. Si l'obéissance va en même temps avec la venue de l'argent, on accepte, sinon nous obéissons quand même. Et Jésus dit, voilà, je vous ai envoyé sans sac afin que vous dépendiez que de moi. Mais là, je vous demande de venir prendre des épées, parce que quand on va m'arrêter, il faut qu'on nous confonde à des malfaiteurs. Vous voyez, Jésus lui-même accepte qu'il soit confondu à des malfaiteurs. Donc il faut que vous ayez un peu d'argent et des épées, qu'on m'arrête comme un voleur, parce que c'est écrit que j'ai été mis au nombre de malfaiteurs. La façon dont on m'a arrêté, il faut que ça soit une façon humiliante, qu'on m'arrête comme un voleur. Jésus savait que c'est l'humiliation qui devait précéder la gloire. Sans l'humiliation, la gloire va nous tuer. Voilà. Nous continuons. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Bien-aimé, Jésus souffre. Il sait ce qu'il attend, comment il va être humilié. Lui qui est Dieu, le Tout-Puissant, bien-aimé. Une grande souffrance. C'est ça l'humiliation. L'humiliation, c'est comme si tu n'existais plus. C'est comme si tu n'existes plus. C'est comme si tu perdais tout. Tu perds tout. Tu es vidé. Et Jésus commençait à être vidé. Vidé. À tel point qu'il a dû prier. Il a dit aux autres, mais priez, la tentation est grande. L'attaque est grande, priez, mais les autres s'endormaient. L'humiliation, forte, l'humiliation maximale, ce n'est pas quelque chose de simple. Et nous avons besoin d'être avertis par rapport à cela, d'être au courant afin de rester ferme malgré cela. Et Jésus est resté ferme, il s'est humilié à tel point qu'un ange que lui-même a créé est venu le consoler. Il a voulu même changer, bien-aimé. L'humiliation va te conduire à te poser la question. Est-ce que tout ce qu'on dit là, on lit dans la Bible, est-ce que c'est vrai? L'humiliation te conduira à ça. Mais est-ce que vraiment Dieu existe? Quand on se convertit, on se dit, mais c'est fini, ça y est, Dieu existe, je l'aimerai toujours. Qui peut m'éloigner de Dieu? Personne. Mais il y a des niveaux d'humiliation où tu te demandes, mais est-ce que ce qui est écrit est toujours vrai? Est-ce qu'on a vraiment, on est dans le bon chemin? L'humiliation te conduira à ça. Tu es déstabilisé, profondément, parce que tu ne comprends pas. C'est là que les questions viennent. C'est là que Jésus commençait sûrement à se dire, mais oui, mais qu'est-ce que moi j'ai fait finalement? Ah oui, pour mériter tout ça. C'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Parce qu'on ne comprend pas. Jésus était juste. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça? Mais il connaissait la raison. Il savait qu'il connaissait la raison. Mais à un moment, c'est tellement lourd, c'est tellement fort que on est tenté d'oublier la raison pour laquelle on est dans l'épreuve. On est tenté d'oublier la raison, d'oublier les versets qui nous fortifieraient. On est surtout concentré sur notre souffrance, sur ce qui nous arrive. Et c'est là qu'on se pose des questions. C'est là qu'on est vraiment meurtri. Mais le peu de foi qui reste, il faut la garder pour continuer à arriver jusqu'à vaincre. Et Jésus a dit, Père, que ta volonté s'efface. Que ta volonté s'efface. En ce moment-là, bien-aimé, ce n'est plus une question de force à dire, chrétien, jusqu'à la mort, je vais y aller. Non, en ce moment-là, c'est, Seigneur, je t'aime. Je ne peux pas faire quelque chose pour te déplaire. C'est là que l'amour entre vraiment dans la relation avec Dieu. Souvent, en tant que serviteur de Dieu, nous finissons par avoir des relations de force avec Dieu, des relations de collaborateurs, de partenaires, et on perd la relation d'amour. Et dans le moment d'humiliation, alors que tu vois vraiment Dieu échouer, parce que visiblement, Dieu échoue, visiblement, mais tu te dis non, je ne crois pas. Et je l'aime tellement que je préfère l'écouter lui plutôt qu'écouter autre chose. C'est là que l'amour intervient. Tu dis, Père, je préfère ta volonté. Je ne la comprends pas, mais je la préfère parce que je t'aime. C'est là que l'amour, qui est la vraie relation avec Dieu, c'est là qu'elle vient se placer. Parce que pendant tout notre travail, nous nous laissons distraire par une relation de collaborateurs, une relation de puissance. Et c'est là qu'on revient à l'amour. Quand on aime quelqu'un, même s'il est handicapé, on l'aime. Quand on aime quelqu'un, même s'il devient fou, on l'aime toujours. Quand on aime, ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, et là, comment dire, il a ou une femme ou un mari, il y a des cas où il y a deux races différentes qui se marient, donc un homme d'une race et une femme d'une autre race. Et j'ai eu des cas où la femme dit, ben, mon mari est raciste. Mais moi je dis, mais comment il t'aime toi? Oui, il m'aime que moi, mais tous les gens de ma race, il ne les aime pas. Donc c'est ça l'amour. Tu es raciste, mais tu aimes quelqu'un de cette race-là que tu n'aimes pas. Ce n'est pas explicable l'amour. Ce n'est pas explicable. Et il faut s'y accrocher. Et en ce moment-là, Jésus s'est accroché à l'amour pour son Père. Il a dit, Père, c'est trop compliqué, mais que ta volonté se fasse. Je t'aime. Je préfère rester avec toi, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. On est ensemble. C'est là la vraie force. C'est pourquoi Paul a dit, tout le reste, c'est bien, c'est important, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Et en ce moment-là, Jésus a dit, bon, je continue l'affaire. Verset 47, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme est aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Bien-aimé, Pierre est vidé. Voilà un de mes points principaux. Dieu va nous vider de notre honneur, de notre confiance en soi-même. Il y a certains prédicateurs qui disent qu'il faut avoir foi en trois choses. En Dieu, en soi-même et aux autres. Moi, je vous dis, il faut avoir foi quand? En Dieu. Dieu va nous vider de notre confiance en soi-même. Il va nous vider du rêve d'être des gens forts pour que nous puissions être forts, mais par lui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais pas par toi-même, c'est par lui. Dieu va te vider. Vous savez, il y a des gens, même déjà dans le monde, ils étaient doux. Et ils arrivent dans le Seigneur, on dit il faut être doux. Il s'est dit, mais je vais continuer. Mais Dieu va permettre que quelqu'un ne te lâche pas au lieu où tu travailles. Il ne va pas te lâcher. Il va sortir ta colère qui était cachée sans que tu t'en rendes compte. Il va la sortir. Tu vas rencontrer un vrai élément, un vrai perturbateur. Et ce jour-là, tu te surprendras dans la colère. Tu sauras que non, je n'étais pas fort dans le monde. Ah oui, oui. Ce que tu pensais être ta force, Dieu va te vider de cela. Il y a des gens qui, déjà dans le monde, ils étaient purs côté sexuel, côté de ce côté-là. Ils se disent, bon, c'est des commandements normaux. Ah, bien-aimé, tu vas te retrouver être séduit par quelqu'un que tu n'avais pas imaginé, quoi. Bien-aimé, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Et tu vas te perturber par des prières, par... Au début même, on ne prie pas. On se dit, ben non. On ne prie même pas. On se dit, oh, moi, c'est des trucs que j'avais maîtrisés depuis longtemps. Mais le truc, il dit, mais tu ne m'avais pas maîtrisé. Je t'ai donné l'impression. Le lendemain, tu repasses encore dans les quartiers. Le monsieur ou la fille est là encore. Oh, mais tu ne comprends pas. Comment mon cœur bat encore? Mais bien-aimé, mais je pensais être fidèle. Je pensais maîtriser les choses. Dieu dit, là, je vais te vider de toi-même. Tu sauras que la pureté ne vient que de l'Éternel. Tu sauras cela. Il y en a qui, ça ne vient pas de ton éducation, ça vient de moi. Donc, bien-aimé. Oui, mais nous, on ne nous a pas éduqués comme ça, mais je ne comprends pas. Oui, Dieu va te vider de la force qui semblait venir de ton éducation pour te donner ce qui est à lui. Et quand on se constate comme ça, on se dit, ah, je suis donc si mauvais. C'est là, Pierre pleura amèrement. Il a dit, ah, moi, Pierre, trahir Jésus, renier Jésus, moi, je suis donc si mauvais que cela. Jésus dit oui, mais moi je suis bon, je suis amour, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu, bien-aimé. C'est là qu'on se rend compte, ah Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. J'avais signé un contrat avec toi, mais aujourd'hui je crie seulement, sauve-moi. Sauve-moi, bien-aimé. C'est là qu'on se dit, tiens, je suis si mauvais que cela. Je ne le savais pas, oui. Mais la Bible le disait, tous ont péché, il n'y a point de juste, même pas un seul. Même dans ce que tu pensais être comme, croire que c'est un domaine dans lequel tu es fort, bien-aimé. Il y a des gens qui pensaient être tellement doux. Mais un jour, tu te surprends avec l'envie de te battre. Tu ne comprends pas, tu dis, mais c'est pas... Ça vient d'où? Mais ça vient de l'homme, puisque l'homme est pourri. C'est pas parce que tu étais doux avant que tu l'es en réalité. Tout homme est mauvais, dit la Bible. Et tout homme a besoin de la nouvelle naissance, de la transformation de Dieu. Tout homme a besoin de la grâce de Dieu. Et tant qu'on va évoluer par nos propres forces, on est en train de porter un orgueil qui nous sera préjudiciable plus tard. Plus tard, nous finirons mal. Et surtout, si nous mourons avec cet orgueil, c'est le feu éternel, c'est l'enfer qui nous attend. Cet orgueil va servir au diable pour nous casser au moment où on sera au sommet. Il attendra qu'on arrive au sommet et il va utiliser cet orgueil pour nous casser. Et Dieu va permettre très tôt de vouloir nous purifier de nos forces qu'on avait autrefois. Et c'est ce qu'il a fait à Pierre. Dieu savait qu'un jour, Pierre allait par son ombre guérir des gens. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir cet orgueil qu'il avait là en ce moment-là. Parce qu'avec cet orgueil-là, en guérissant les gens par son ombre, il va devenir fou. Il va se proclamer Dieu lui-même. Alors il fallait le vider. Il fallait le préparer. Il a dit, Pierre, en plus il a prévenu, hein, Satan vous demande, il va vous cribler vous tous. Mais toi, j'ai prié pour toi, pour que toi tu t'en sortes et que tu soutiennes les autres. Pierre a dit, oh, tu n'avais pas besoin de prier. Il dit à Jésus, mais tu n'avais pas besoin de prier. Moi, je te suivrai partout. Jésus dit, Pierre, tu vas voir. Bien-aimé. Il y a des gens qui ne prient même pas pour certains sujets. Ils sont tellement sûrs. Non. Dieu veut qu'on revienne à l'humilité, à reconnaître que tout vient de lui. La force que tu as maintenant vient de lui. Et que si lui ne garde pas cela, tu tomberas comme tout homme. La chair de l'homme est mauvaise. C'est pourquoi nous avons besoin chaque jour de l'aide de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'on s'humilie. Et si on ne comprend pas, Dieu va nous mettre dans des situations pour qu'on réalise qu'on n'est rien. Comme Pierre, on va pleurer en disant, ah, j'étais donc comme ceci. Et effectivement, tu étais comme cela. Et c'est ça la première étape. L'homme est vidé de sa force. Verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. ils lui voilèrent le visage. Il l'interrogeait en disant, « Devine qui t'a frappé ?» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas commenter les souffrances du Seigneur. On les lit, le Saint-Esprit va nous parler. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous !» Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem, en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Bien-aimé, quelle humiliation, quelle honte, Jésus. On lui fait faire le tour des tribunaux. Jésus est renié par le peuple qu'il a nourri, qu'il a aidé, qu'il a guéri, qu'il a sauvé, à qui il a prêché la parole, Jésus est renié. La phrase à dire par rapport à cela, c'est que je ne comprends pas comment les gens peuvent renier quelqu'un qui leur a fait tant de bien. Et ça va nous arriver en tant que pasteur, des gens qui vont renier tout ce que tu as fait. Il faut accepter. Parce que le Seigneur est passé par là. Ça va nous arriver en tant qu'humains, des gens qui vont annuler tout ce qu'on a fait de bien. Il nous faut accepter. Parce que Jésus est passé par là. C'est la vraie humiliation. Vous savez, afin que quoi ? Afin que la gloire revienne à qui ? À Dieu seul. Un serviteur de Dieu, Richard Rumbrandt, disait, lorsque je suis critiqué par rapport à l'œuvre que je fais, eh bien, je dis merci Seigneur, parce que il faut que moi je sois critiqué et que toi tu sois élevé. Donc au moins, moi je reconnais avoir fait de bonnes choses, comme malgré cela, moi je suis critiqué, considéré comme nul, Eh bien, ça voudrait dire que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. Et ce n'est que justice. Voilà, bien-aimé. Et quand ça nous arrive, disons, bon, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je n'ai pas retiré une quelconque gloire, parce que la gloire tue. L'humilité précède la vraie gloire. Comme il l'a mené, verset 26, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Vous savez, Jésus n'a même pas fait le costaud, quoi. Il a été fatigué, il est tombé. C'est honteux, quoi. C'est honteux, le Fils de Dieu incapable de porter une croix. Et quand on lit les histoires de David, on voit David qui tue Goliath. Mais à un moment, David lui-même, il est obligé de fuir devant quelques soldats. Donc, vous voyez qu'avec Dieu, on ne peut pas dire, bon, comme j'ai frappé Goliath, je ne fuirai plus jamais devant une armée. Bien aimé, moi, j'avais juré qu'on ne me mettra jamais de tuyau qui passe par mon nez jusque dans mon ventre. Ça s'appelle endoscopie, c'est ça. Donc, ils avaient essayé une fois. Ça n'avait pas marché tellement. J'avais l'impression qu'on voulait me tuer. J'avais tenu les bras des médecins. J'avais dit, ne faites pas ça. Donc, et ils avaient pas fait. Donc, ils étaient contentés des analyses pour me soigner. Et je m'étais dit, à partir d'aujourd'hui, on ne me mettra jamais plus de tuyaux. Et quand on dit jamais plus, ça veut dire qu'on a déjà pris la place de Dieu. Bien-aimé, Dieu a dit rendez-vous dans quelques années, monsieur. Et bien-aimé, dans quelques années, problème d'estomac, on me dit, il faut qu'on te mette le tuyau. Moi, j'ai dit non. Je préfère qu'on m'opère. Mais non, mais l'opération va te laisser peut-être des séquelles, mais là, le tuyau peut te sauver sans qu'on t'opère. Moi, j'ai dit non. Opération, j'ai juré qu'on ne me mettrait pas de tuyau. On me change de clinique. J'arrive là, même version, j'ai dit, on ne me met pas de tuyau, opération. Mais un médecin est venu, il a dit, mais monsieur, même si on vous opère, après, pour enlever certaines choses, on est obligé de mettre le tuyau avec le même nombre de jours. Moi, je dis, bon, d'accord, autant l'avoir sans opération que... Bien-aimé, j'étais en colère quand on venait me visiter. En plus, le tuyau m'empêchait de parler. Je suis quelqu'un qui aime parler quand même. Donc, on me visitait et un de mes frères, lui aussi, comme il aime parler, il parlait beaucoup, moi, je ne pouvais pas répondre. J'étais en colère. J'étais là entre... J'ai dit, mais voilà, Seigneur, voilà à quoi tu me réduis à ça, vraiment. Donc, bien-aimé, et j'ai dit, l'homme n'est rien. J'ai dit, merci, Seigneur, parce que à toi seul la gloire. Bien-aimé, Jésus humilié. Il n'a même pas fait le costaud à porter la croix, mais non, comme un Superman, non. Humilié, manque de force physique. Il faut que quelqu'un l'aide. Quelle humiliation, bien-aimé, pour le Fils de Dieu. Comme il l'a mené, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous. » Et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Amen. Bien-aimé, Jésus reconnaît qu'il est le bois vert, c'est-à-dire le bon bois. Mais il dit que ces choses-là doivent être faites même au bois vert. Mais il y aura des choses beaucoup plus graves au bois sec. Qui arrivera au bois sec. Donc les gens qui refusent de recevoir la parole de Dieu, les gens qui refusent de s'humilier devant Dieu, il y aura quelque chose de pire. Il dit, moi qui suis le bois vert, regardez ce qui m'arrive. Donc Jésus veut dire par là que si tu te crois juste, ça t'arrivera ce qui lui est arrivé. Même les bois verts subiront ce que Jésus-Christ a subi. Souvent on dit, mais Seigneur, qu'ai-je fait? Dieu te dit, ce n'est pas une question de qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, on est dans la deuxième étape, le deuxième point. Ce n'est pas forcément parce qu'on a fait quelque chose qu'on va subir l'humiliation, mais c'est parce qu'on nous prépare à la gloire. D'un côté, Dieu voudra nous vider de tout ce qui est force personnelle. Et le deuxième point, c'est que la gloire de Dieu est si grande qu'elle nécessite qu'on nous purifie par l'humiliation. Et Jésus, comme la Bible dit dans Hébreux, devait être perfectionné par ses souffrances. Moi, quand je lis ce verset-là, que Jésus a été perfectionné par ses souffrances, je dis, mais lui, il était parfait. Oui, mais il faut prouver qu'on est parfait. Hein. faut prouver. Et donc les souffrances de Jésus étaient là pour attester qu'il était vraiment parfait. Il a été perfectionné par ses souffrances. Et nous tous qui nous croyons être matures, parfaits, nous serons perfectionnés. On devra le prouver à travers les souffrances, à travers des épreuves qu'on ne comprendra pas. À travers des choses qui paraîtront injustes, nous devions prouver. Si tu te dis que tu te reproches rien, donc le bois vert le subira quand même. Parce que Dieu prépare le bois vert à une plus grande gloire. L'objectif est celui-là, te purifier pour une plus grande gloire. Et Jésus était en train de subir. Il a dit, mais vous, vous allez subir plus grave. Si vous ne venez pas à moi, vous allez subir plus grave. 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien-aimés, jusqu'au bout, humiliés, on le critique. Verset 35, lisez la scène. Le peuple se tenait là et regardait. Voyez la scène, il y a des curieux que tu as bénis, mais là ils sont devenus indifférents, ils regardent simplement. Ils n'osent même pas lever la voix pour dire « c'est injuste ». Non, ils regardent. Autre scène, les magistrats se moquaient de Jésus, disant « il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est Christ, l'élu de Dieu ». C'est des critiques. Tu es dans une telle position que tu ne peux même pas rendre coup pour coup. Donc tu ne peux que subir. Ah voilà, ben voilà où tu en arrives. Sauve-toi. Et les magistrats qui étaient un peu ses ennemis aussi, les critiques. Les soldats aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a un théologien qui a dit, ça c'est vraiment le monde, la scène du monde. Quand un malheur nous arrive, c'est ce qui se passe quoi. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Donc, même les gens avec qui tu vis la même condition t'injurient, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, dans la plus grande souffrance, et tout le monde regarde et les gens se moquent. Il accepte. Il continue. Bien-aimé, les gens se moqueront. Il y a des gens qui diront, mais oui, mais tu es serviteur de Dieu. Comment tel malheur t'arrive? Il y a des gens qui se moqueront de toutes sortes. Mais vis ta mort. Va jusqu'au bout de ta mort. Jésus pouvait dire stop, hein? Il veut faire marche arrière et retourner au ciel. Non, il dit c'est leur temps. Lui-même l'avait dit quand on est venu l'arrêter, c'est l'heure des ténèbres. Il y a un temps qui arrive dans nos vies où c'est l'heure des ténèbres. C'est leur temps qu'ils fassent. Mais Dieu a son temps. C'est pourquoi Job a dit dans Job 19, 25, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. C'est lui qui a... Le dernier temps est réservé à lui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Satan peut parfois commencer, mais c'est Dieu toujours qui finit. Toujours c'est Dieu qui finit. C'est leur temps. Et puis, ce voleur qui a le réflexe de dire, Seigneur Jésus, tu es Dieu, malgré tout ce que tu vois. Voilà ce que Dieu attend de nous. Malgré les épreuves, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Et qui ne sortira toujours de ses problèmes. Qu'on garde le peu de foi qu'on peut garder, gardons-la jusqu'au bout. C'est elle qui nous sortira. Bien-aimé, quand on sauve quelqu'un qui se noie, parfois c'est avec un fil, juste une corde. Et cette petite corde, il va la saisir et c'est ça qui va le sortir de là. Parfois c'est une bouée. C'est petit, c'est rien, c'est insignifiant comme objet, mais c'est ça qui va sauver cette vie-là. Bien-aimé, et gardons cette foi-là. La plus petite qui soit, mais gardons-la quand même. J'ai l'habitude de poser la question à d'autres personnes. Mais oui, mais si tu perds la foi, si tu refuses d'entrer dans la foi, donc tu reconnais que les forces des ténèbres ont gagné, donc tu t'abandonnes entre leurs mains. Bien-aimé, voilà. Rejeter la foi, c'est reconnaître la défaite vis-à-vis des forces des ténèbres, donc s'abandonner entre leurs mains. Non, moi j'ai dit non, Seigneur. Je préfère garder la foi même si je ne comprends pas. Même si tout me donne l'impression que j'ai perdu le combat, la bataille, je garde ma foi parce que je ne peux pas moi-même me vendre aux forces des ténèbres. Je garde ma foi. C'est clair. Par la grâce de Dieu. Et puis, Jésus-Christ, la Bible dit au verset 44, il était déjà environ la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Même tes proches se tiennent dans l'éloignement et regardent ce qui se passe parce que ça les dépasse aussi. Ça les dépasse ce qui t'arrive. Dieu seul peut te soutenir. Et il faut s'accrocher à Dieu. Il ne faut pas se transformer en juge des autres. Et Jésus n'a jugé personne. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on se transforme en juge. Ah oui, mais tel ne m'a pas soutenu. Tel ne m'a pas soutenu. Non, peut-être qu'il ne comprend pas ce qui t'arrive parce que ça le dépasse aussi. Comme ça te dépasse, ça le dépasse aussi. Toi, cherche Dieu et laisse les autres tranquilles. C'est ce que Jésus a fait. À la rigueur, au mieux d'ailleurs, demande pardon pour eux. Si tu es convaincu qu'ils sont dans le péché, demande pardon pour eux, comme le Seigneur Jésus l'a fait. C'est ça le chemin de l'humiliation, jusqu'à ce que tu demandes pardon pour les autres, alors que c'est eux qui font le mal. C'est l'humiliation jusqu'au bout. Et, bien aimé, ce n'est pas facile, mais c'est un temps. Et ça a tué les disciples. Vous savez, les gens disent, on aurait bien aimé être à leur place, vivre avec Jésus. Mais ce qui s'était passé ce jour-là, à Gethsémané, ensuite à la croix à Golgotha, ça avait tué les disciples. Il y en a qui avaient laissé leur famille pendant 3 ans. Ils avaient laissé leur bien, leur boulot. Ils avaient tout laissé. Et bien aimé, non seulement tout laissé, mais avec quelle espérance. Quelle espérance. Nous serons des rois, nous serons des princes, des prophètes. Nous sommes des élus de Dieu. Nous avons comme ami le Tout-Puissant, celui qui multiplie les pains, qui calme même la tempête. Bien-aimés, quelle espérance ces gens-là avaient. Mais ce jour-là, tout a été aspiré. Tout a été aspiré. Tout ce qu'ils avaient eu comme force pendant les 3 ans et demi avec, quand ils étaient avec Jésus, eh bien, tout ça a été aspiré. Vous vous imaginez celui qui calmait la tempête, il se fait arrêter, il ne réagit pas, il n'arrive même pas à porter sa croix, le bois jusqu'au bout, il n'arrive même pas. Donc quelle déception, quelle désillusion pour les apôtres. Quelle désillusion, même s'ils avaient été prévenus, ils étaient confondus, désillusionnés. Moi je ne peux pas envier leur sort. Autrefois je les enviais, je disais que j'aurais préféré vivre avec Jésus comme eux. Ce serait excellent. Mais depuis que j'ai compris ce qu'ils avaient subi ce jour-là, j'ai dit, je ne les envie pas. Ils avaient connu quelque chose de très, très douloureux, de qui te vide. Ils ont été aspirés. Désillusion. Je vais dire quoi à ma famille? J'ai entraîné mes enfants dans cette affaire. Bien aimé. Et sans compter l'espérance qu'ils avaient en Jésus. Complètement cassée. Et donc, leur sort n'est pas enviable. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Il y a des moments où on ne comprend pas, Seigneur. On ne comprend pas le Seigneur. Ça fait 6 mois que j'ai pris pour le sujet. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Et surtout avec les fausses prédications qu'on a entendues sur les miracles, sur des choses comme ça. Nous sommes pour les miracles. Nous aimons ça. Mais nous aimons plus la volonté de Dieu que toute autre chose. Si Jésus pensait que tout allait se faire d'une manière instantanée, il ne nous aurait pas donné lui-même la parabole de la veuve et du juge unique de Luc 18, où il dit qu'il faut persévérer dans la prière, même quand ça ne vient pas. Il savait qu'on aurait des choses qu'on demanderait, ça traînerait. Il nous a prévenus pour qu'on s'arme déjà de patience, pour qu'on cherche sa face. Il avait déjà prévenu, bien-aimé. Alors on nous a habitués comme à de l'instantané, comme chez les magiciens. Mais, mais l'instantané des magiciens se transforme tout de suite en cadeau empoisonné. Mais Dieu donne des choses solides et il est construit, bien-aimé. Il est construit. Il prend le temps de nous construire dans l'humiliation, dans l'humilité. Acceptons cette construction de Dieu. C'est biblique. C'est vrai que mon discours n'est pas facile à tenir quand au téléphone les gens pleurent de souffrances, des difficultés, des épreuves qu'ils connaissent. C'est pas facile à tenir quand dans le bureau tout le monde vient avec son problème. C'est pas facile à tenir, mais c'est le vrai discours. Et ce n'est pas facile non plus pour moi. C'est comme une épreuve aussi pour moi. Mais c'est le discours. Dieu est vivant. Et souvent, on est distrait parce que si on compte les choses que Dieu fait d'excellent dans nos vies, on en verra beaucoup. Mais on va être juste bloqué par quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui va attirer toute notre attention. On oublie de voir tout ce qu'il fait de bien. Et ce n'est que la chose qui ne marche pas qui va nous amener à ne pas croire que Dieu existe. Voilà notre ingratitude. Et on va se concentrer bien sur ça parce qu'on veut que tout marche. On est dans une société où il faut que tout marche. Le corps, le physique, il ne faut pas qu'il y ait des rides. Il faut que tout marche. Il faut que tout marche. Et dès qu'il y a quelque chose qui coince, on oublie tout ce que Dieu fait d'extraordinaire. Tout ce que Dieu fait d'agréable. Toutes ses bénédictions. Parce qu'on est coincé par quelque chose. Au lieu de comprendre qu'il y a un message derrière ce coinçage-là, bien-aimé. Nous revenons à notre message. En ce qui nous concerne, nous vivons ces choses. Nous sommes dépassés, étonnés. Nous ne comprenons pas. Mais pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu tarde? Dieu a son temps. Et ce temps-là est prévu pour notre construction. Ce que Dieu prépare à faire est grand pour chacun d'entre nous. Et très très grand. Très très grand. À tel point que Jésus a dit, jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé. Même ce que vous me demandez, c'est rien du tout. Je suis prêt à faire des choses extraordinaires. Vous n'avez pas encore demandé. Et Dieu nous prépare à ces choses-là extraordinaires. Chacun d'entre nous a un appel extraordinaire. Mais il ne s'en rend pas compte. Parce qu'il est distrait par les systèmes religieux aujourd'hui. Mais si tu ouvrais les yeux, si tu entrais dans la vraie communion avec Dieu, tu sauras que Dieu t'appelle à des grandes choses. Mais il va te préparer. L'humilité précède la gloire. Il faut accepter cela. Et pendant ces difficultés, si nous restons fermes avec le Seigneur, voilà ce qui va nous arriver. Nous lisons verset 13. Et voici ce même jour, verset 13 du chapitre 24. Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient avec de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Voilà, bien-aimés, ce qui est arrivé à nos disciples et ce qui peut nous arriver à nous si nous restons fermes. Attristés parfois, oui, mais accrochés à la parole. Qu'est-ce qui a sauvé ces gens? Jésus leur a rappelé la parole. Il leur a dit, c'est écrit tout ce que le Fils de Dieu a subi. C'était écrit. Vous savez, ces gens-là, dans leur tristesse, ils ont même oublié que Jésus était un prophète puissant en parole et en action. Ils ont oublié tous les miracles du Seigneur. Bien-aimés, souvenons-nous de notre passé. Souvenons-nous. Autrefois, tu étais fort. Autrefois, tu étais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui que tu es faible, au lieu de céder à la panique, souviens-toi du passé et dis-toi, il y a quelque chose que je dois apprendre. Un point, c'est tout. Et je vais chercher ce que je dois apprendre. Et Jésus leur a appelé la parole. Et vous savez pourquoi Pierre est tombé? Parce qu'au moment où Jésus disait, il faut prier, Pierre n'avait pas prié. Jésus-Christ priait, a prié à tel point que le sang est sorti de lui. Il priait, il sentait que l'épreuve était trop grande. Il fallait prier pour pouvoir tenir, recevoir la force d'en haut. Au moment où ses disciples parlaient attristés, ils avaient oublié quoi? Les Écritures. Et Jésus leur a rappelé les Écritures. Tant que tu seras baigné dans les Écritures et dans la prière, tu pourras triompher. Ça sera dur, mais replonge dans les Écritures et la prière. Et parfois dans certains événements du passé, parce que Dieu a fait aussi des choses dans ton passé. Tu l'avais glorifié, tu avais sauté des joies un jour, mais c'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il peut encore faire. Et surtout, comme j'ai dit à un bien-aimé, il y a quelques jours, j'ai dit, nous les chrétiens, les vrais, nous sommes comme des rêveurs. Nous ne marchons pas selon ce que nous voyons avec nos yeux, nous marchons selon nos rêves qui sont écrits dans la parole de Dieu, bien-aimés. Nous prenons la parole de Dieu comme une réalité alors que nous ne voyons rien. Nous sommes des rêveurs, mais des véritables, des rêveurs de la réalité, pas des rêveurs de ceux qui rêvent avoir des châteaux en Espagne, mais non. Nous rêvons de la réalité qui est inscrite dans la parole de Dieu et qui finira par s'accomplir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est tout puissant. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il est entré dans sa gloire. Vous savez, l'apôtre Jean était tellement conscient que la gloire de Jésus, c'était son humiliation. Il ne parle pas de sa gloire par rapport à la résurrection. Il parle, l'heure est arrivée où Jésus devait être glorifié. Quand vous lisez l'évangile de Jean, Jean appelle la crucifixion de Jésus l'heure de sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est quand tu es humilié, c'est là que tu as construit ta gloire. Tu n'as pas... La gloire, ce n'est pas quand tu fais des exploits, c'est quand tu es humilié. C'est là que ta gloire est construite. C'est là que Proverbe 15, 23 dit, l'humilité précède la gloire. Parce que pendant que tu es au fond, là, c'est là que Dieu s'apprête à te relever. Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, bien-aimés. David a vécu tout cela. On l'a injurié. On l'a fait fuir par son fils. C'est dans 2 Samuel 16. On n'a pas le temps de lire. On l'a fait fuir par son fils. Et il quittait la ville. Puisque son fils lui a fait un coup d'état. Il lui a pris sa place. Et il fuyait avec ses soldats. Avec une partie du peuple. Arrivé quelque part. Un homme commence à l'injurier. L'homme était seul. David pouvait dire à ses gardes de le tuer. Et c'est les gardes de David voulaient tuer cet homme qui injuriait David. David a dit non, laissez-le. S'il m'injurie, c'est Dieu qui l'autorise à m'injurier. Je préfère pleurer, je préfère être triste. Comme ça, dans ma tristesse, Dieu aura pitié de moi. C'est ainsi qu'il est écrit dans Psaume 34, 7. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Ce que nous refusons, c'est d'être des malheureux. Revenons au vrai christianisme. Acceptons dans certains moments, d'être des malheureux. C'est-à-dire, tu ne comprends pas. Tu es comme délaissé par Dieu. Tu as comme envie de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Et c'est parfois vrai. Il t'a abandonné pour un instant. Mais tu es toujours en lui, mais il te laisse. Il te laisse être matraqué par les forces des ténèbres parce qu'il veut tester sa résistance. Il veut purifier, bien-aimé. Et pendant que tu vis ça, sache que tu es en train de vivre ton heure de gloire. Tu es en train de vivre ton heure de gloire. Mais notre heure de gloire, ce n'est pas pour qu'on prenne cette gloire. C'est pour qu'on rende cette gloire au Seigneur. C'est pourquoi justement il nous humilie, afin que la gloire revienne à lui tout seul. Et il ira jusqu'au bout. Amen. Nous allons prier.